Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre, prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 13 de Saint Matthieu, verset 10, donc, dans le polycopié, troisième polycopié, le polycopié qui couvre les chapitres 11 à 15 de Saint Matthieu, à la page 19. Voyons les versets 10 à 17. Les disciples s'approchant dirent à Jésus, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» Il leur répondit, « C'est parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en regardant, ils ne voient point, et qu'en écoutant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et en eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, mais ils ont péniblement entendu de leurs oreilles, car ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. » La première chose qui frappe à la lecture de ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ insiste une fois de plus sur l'absence totale d'égalité entre les âmes, et donc entre les fidèles. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui n'écoutent pas, il y a ceux qui entendent, il y a ceux qui n'entendent pas. Il y a ceux qui font semblant d'écouter qui en fin de compte n'écoutent pas parce que la parole passe, ça passe à travers la cervelle comme l'eau au milieu d'un filet d'air et il n'y a rien qui se passe. Donc cela nous aide à comprendre l'importance de la réponse à la grâce. Dieu nous donne à tous la grâce d'aller au ciel, mais beaucoup la refusent. Et donc Dieu, sachant que beaucoup la refusent, donne à ceux qui la refusent une grâce qui est simplement suffisante et non pas efficace. Et cette grâce suffisante, malgré son nom, n'est pas efficace pour aller au ciel. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque, c'est la collaboration à la grâce. On voit un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet en haut de la page 20. Donc en fait, notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très nettement dans le texte que je viens de vous lire, notre Seigneur Jésus-Christ se rend compte, explique que ceux qui écoutent sans écouter, ceux qui entendent mais qui ne comprennent pas, qui regardent et qui ne voient pas, c'est le peuple juif. Et ceux à qui il parle après, donc les apôtres, à qui il dit, vous, vous avez des yeux et vous voyez, vous avez des oreilles et vous entendez, et bien, il s'adresse là à ceux qui ont pris par substitution la place des juifs. La place des Juifs de l'Ancien Testament. Donc c'est l'enseignement de l'Église, l'enseignement des Pères de l'Église, que le Nouveau Testament se substitue à l'Ancien Testament au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va mourir. pendant cette passion, quand il y a le voile du temple qui est déchiré en deux, c'est le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais si l'Ancien Testament, avant notre Seigneur Jésus-Christ, était un moyen magnifique de se sauver, les œuvres de l'Ancien Testament aujourd'hui sont des œuvres mortifères. On ne peut plus se sauver que l'Ancien Testament, il faut passer au Nouveau. Les conséquences sont énormes. Hein. Souvent, on me demande, mais monsieur l'abbé, pourtant, le Dieu des Juifs et le Dieu des catholiques, c'est quand même le même. C'est triste à dire, mais non, c'est pas le même. Parce que les Juifs attendent toujours le Dieu qui est déjà venu sur la terre, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ dans son incarnation. Donc, puisque les Juifs refusent notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est venu et qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, donc les Juifs n'ont pas le même Dieu que nous. Ils avaient le même Dieu, ils auraient eu le même Dieu pendant l'Ancien Testament, mais on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Et comme ils rejettent, ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ par ce crime de déicide, eh bien ils ont prouvé et montré qu'ils n'acceptaient pas le même Dieu, puisque le Dieu que nous adorons, qui vient sur l'autel tous les jours, il le refuse. Voilà ce que disent les pères en haut de la page 20. Le cœur des Juifs s'est appesanti sous le poids de leur malice, et c'est la multitude de leurs péchés qui leur a fait entendre avec peine les paroles du Seigneur qu'ils reçoivent avec une superbe ingratitude. Et saint Jérôme précise, de peur que nous ne pensions que cet appesantissement du cœur et cette surdité de l'ouïe étaient un vice de la nature et non de la volonté, il prouve que c'était la suite du mauvais usage de leur liberté, en ajoutant « ils ont fermé les yeux ». En effet, l'âme est véritablement un œil, parce qu'elle s'applique par son énergie naturelle à l'intelligence des choses. L'âme est aussi l'oreille, parce qu'elle peut recevoir les enseignements des autres. Alors attention, hein, encore une fois, ça c'est très important à comprendre, il ne faut pas non plus accabler le peuple juif en disant que nous on est différents. D'abord, ne pas oublier qu'à la fin des temps, le peuple juif se convertira, au moins dans une partie. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous continuons de vivre tranquillement dans le péché, eh bien on fait comme les juifs, hein. On n'est pas plus malin qu'eux. Et nous sommes coupables du même crime que les juifs, parce que nous refusons notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous entendons, mais ça ne pénètre pas à l'intérieur, nous regardons, mais nous ne voyons pas, parce que ça ne rentre pas à l'intérieur de la cervelle, à l'intérieur de l'âme. Donc il faut se maintenir dans l'humilité, et c'est à cause d'un manque d'humilité que la parole du bon Dieu ne passe pas, comme si vous voulez, pour expliquer, on peut réutiliser de nouveau la parabole du semeur. Si la graine tombe sur le chemin, ou tombe sur le côté du chemin, ou tombe dans les ronces, ou dans les épines, eh bien la graine ne peut pas porter de fruits. C'est impossible, elle peut peut-être germer, mais elle n'ira pas plus loin. Pourquoi ? Parce que le champ n'est pas préparé à recevoir la graine, et la graine qui était prévue pour donner du 30%, du 60%, même du 100%, ne donne rien du tout, parce que l'âme n'était pas disposée à recevoir la grâce. Il me dit, mais c'est le bon Dieu qui fait tout. Le bon Dieu fait tout, mais avec notre coopération, c'est là le grand mystère, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le mystère de la toute-puissance de la grâce de Dieu, mais qui est joint à l'acceptation de cette grâce de Dieu par notre libre arbitre. Et si je refuse par mon libre arbitre la présence du bon Dieu dans mon âme, eh bien la graine va tomber sur le côté du chemin, va tomber sur le chemin lui-même, dans les pierres ou dans les ronces. Dieu amoncelle sur ses fidèles et les élus, tels que les apôtres, chaque jour de nouvelles grâces et bénéfices, pour qu'ils abondent en vertu et sainteté. Mais il ôte graduellement ses dons, tant de nature que de grâce, aux incroyants, aux ingrats et aux indignes. Quelle phrase magnifique! Dieu ôte ses dons, tant de nature que de grâce, aux incroyants, aux ingrats et aux indignes. Ça, on le voit aujourd'hui. Et encore une fois, il ne faut pas dire les ingrats, les incroyants, les indignes, c'est tous ces juifs. Non, ce n'est pas que tous les juifs, c'est aussi nous, mes bien chers frères. Nous aussi, nous, quand on se prend pour la cuisse de Jupiter, quand on se prend pour les demi-dieux et qu'on tombe dans l'orgueil, si je dis à longueur de journée « moi je, moi je, moi je, moi je », je suis comme le pharisien de l'évangile qui se présente à la porte du temple avec le publicain. Le publicain sera pardonné, mais pas le pharisien parce qu'il est plein d'orgueil. Attention à l'orgueil. Si nous avons conservé la foi, c'est le fruit d'une grâce du bon Dieu. Si je garde la foi, c'est le fruit d'une grâce du bon Dieu. Donc se maintenir dans l'humilité pour justement ne pas tomber dans l'orgueil qui nous coupe de Dieu. Chapitre 13 de Saint Matthieu, versets 18 à 23. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Voilà, elle arrive, vous voyez, je n'ai pas vu tout de suite que c'était la suite, mais c'est la suite logique. Si quelqu'un entend la parole du bon Dieu, du royaume, et ne s'en pénètre pas, l'esprit malin vient, il enlève ce qui avait été semé dans son cœur, et c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient que pour un temps. Et lorsque vient la persécution, la tribulation à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quant à celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et qui porte du fruit et donne 100 ou 60 ou 30 pour un. Alors, je vais essayer d'aller à travers les commentaires des pères qui sont assez nombreux dans ce passage. Je n'ai pas le temps encore une fois de tout faire, de tout voir, de tout expliquer. J'ai pris simplement les textes qui me semblent les plus clairs, les plus importants. Et donc, il faut encore une fois se mettre dans la parabole. Ce n'est pas une parabole pour les juifs, c'est une parabole pour tous les hommes. C'est une parabole aussi pour moi. Cette graine, c'est la grâce du bon Dieu. Le champ préparé, c'est mon âme. Dans quel état est la préparation de mon âme? Est-ce que mon âme ressemble à un champ inculte, plein de ronces, plein d'épines, plein de pierres, qui ressemble plus à un chemin qu'à un champ? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est préparée à recevoir notre Seigneur? Alors voyons un petit peu les commentaires des pères. La semence, disent-ils, ou la parole de Dieu qui tombe sur la pierre, d'ailleurs, sur un cœur dur et indompté, ne peut fructifier. Sa dureté est trop grande, son désir du ciel trop faible, et cette excessive dureté ne lui permet pas d'avoir des racines. C'est intéressant de voir qu'ici, les pères parlent de la nécessité d'avoir un désir du ciel. C'était la sœur de Saint Thomas, une fois qu'il demandait à son frère, Saint Thomas d'Aquin, quelle est la première condition pour aller au ciel? Et Saint Thomas a répondu, un grand désir d'y aller. Un grand désir d'y aller. Est-ce que vous et moi, mes bien-chers frères, est-ce que nous avons un grand désir du ciel? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on n'y pense pas? Bien sûr, on va aller au paradis, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui mène notre vie tous les jours. Notre Seigneur avait dit déjà à Adam, tu mangeras ton pain au milieu des ronces et des épines. Pour bien nous faire comprendre que il faut nettoyer notre âme de ses ronces et de ses épines. Parce que nous vivons dans un monde, et si nous ne faisons pas attention, notre cœur va devenir, notre âme va devenir comme le monde autour duquel, dans lequel je vis. Donc, si mon cœur devient comme plein rempli de ronces et d'épines, allégoriquement, c'est le symbole de tout homme qui se livre aux voluptés du siècle et aux soins de ce monde. Et qui par là mange le pain céleste et l'aliment de vérité au milieu des épines. Donc encore une fois, faisons un examen de conscience de l'état de notre âme. Est-ce que mon âme est claire, propre, pour pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'au contraire, notre âme ressemble à un terrain vague, complètement abandonné, aux serpents, aux araignées, aux insectes, aux ronces, aux épines? On voit bien ici, les pères insistent que si notre âme est sale, si notre âme est pleine de ronces et d'épines, c'est que je me suis livré aux voluptés du monde. Qu'est-ce que c'est que les voluptés du monde? Les voluptés du siècle plutôt, les soins de ce monde, ben ce sont les trois concupiscences, encore une fois, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Si je veux constamment faire rentrer dans mon âme toutes les dernières nouveautés du siècle, comment voulez-vous que le monde trouve la place d'y rester dans cette âme? Si mon âme est en quelque sorte complètement surchargée par les choses matérielles, plus une âme est lourde de choses matérielles, moins elle est spirituelle et moins elle a de mal à s'élever vers le plus elle a de mal à être spirituelle et s'élever vers le bon Dieu. Donc il faut nettoyer mon âme. Si mon âme est pleine de cailloux, si mon âme est pleine de choses du monde, Elle est appesantie justement par les choses du monde. Elle n'a plus assez d'énergie pour s'élever vers le bon Dieu, comme encore une fois, comme un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a un fil à la patte. Est-ce que j'ai un fil à la patte? Est-ce que j'ai un fil aux deux pattes? Est-ce que j'ai un fil à mon cœur? Est-ce que j'ai un fil à mon intelligence? Est-ce que j'ai un fil à mes yeux, à mes oreilles, à ma bouche, à tous mes sens, qui m'empêchent justement d'écouter le bon Dieu, de mettre la parole du bon Dieu en pratique? Voilà la question qu'il faut se poser. Vous avez tout ça à la page 20. Donc je répète cette phrase tellement importante. Tout homme qui se livre aux voluptés du siècle et aux soins de ce monde est un homme justement qui mange son pain au milieu des ronces et des épines. Donc il est entouré des choses du monde. Encore une fois, si on laisse par exemple toutes les tentations d'impureté, la concupiscence de la chair, toutes les films impurs, les conversations impures, les vêtements impurs, les liaisons, les relations dangereuses, les amitiés dangereuses. Si on laisse toutes ces choses-là envahir mon âme va devenir de plus en plus lourde de ce péché de luxure, ces péchés d'impureté, et va s'éloigner du bon Dieu. Et le pire, c'est évidemment l'orgueil. Si je me crois capable par mes propres forces de tenir le coup, le bon Dieu va se retirer de mon âme, ça c'est sûr. Donc c'est avec raison, disent les pères, que notre Seigneur appelle ces plaisirs des épines. Parce que ces plaisirs déchirent l'âme avec les pointes aiguës de leurs pensées, étouffent dans leurs germes les fruits spirituels des vertus et ne leur permettent pas de se développer. Les richesses étouffent la parole de Dieu, amollissent la vigueur des vertus. Et on retrouve ici ce dont on a déjà parlé auparavant, la mollesse. La mollesse, on a parlé de ça aussi dans les conférences sur la somme théologique de saint Thomas, dans la vertu de force. Quand la vertu de force disparaît, c'est la mollesse qui intervient. La mollesse. Et la mollesse, dit saint Thomas, vient justement de la corruption des sens. Et la corruption des sens. Donc si je laisse la luxure prendre pied sur mon âme, et que je commence à suivre, si vous voulez, toutes les choses sensuelles, eh bien évidemment, je vais me couper de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces épines, ces ronces qui empêchent l'âme de se développer vont être comme des morsures constantes contre l'âme et qui vont amollir de plus en plus la vigueur des vertus et les vertus vont venir de plus en plus molles et finir par disparaître complètement. Au contraire, disent les pères, la bonne terre, c'est la conscience pure des élus. C'est l'âme des saints qui reçoit la parole de Dieu avec joie, avec désir, avec amour, qui la conserve courageusement dans la prospérité comme dans l'adversité. Elle lui fait produire des fruits. Remarquez, disent les pères, comme il y a trois sortes de mauvaises terres, le chemin, la pierre et le champ couvert d'épines, il y a en même temps trois espèces différentes de bonnes terres. Celle qui rend 100 pour 1, celle qui rend 60, celle qui rend 30. Vous allez me dire, comme je sais que je dois me défier de moi-même, moi je vais demander simplement le 30%, c'est déjà pas mal. Bien, vous pouvez toujours demander. Mais si mon Dieu a décidé que votre âme devait donner du 60%, 30% c'est pas assez. Et si votre âme, Dieu avait décidé que votre âme pouvait donner du 100%, du 100 pour 1, et vous donnez que 30, le bon Dieu aura le droit de vous dire, ce n'est pas assez. Rappelez-vous, j'ai expliqué ça au dernier sermon, je crois, ou l'avant-dernier sermon, rappelez-vous la page du livre de Daniel, quand Balthazar, au milieu d'une orgie, au milieu d'un grand festin avec les grands sons royaux, voit des doigts mystérieux qui écrivent sur le mur trois mots en hébreu qu'il est incapable de comprendre et de lire. Alors Daniel vient et interprète trois mots, Mané, Tessel, Phares. Mané, tu seras compté, Tessel, tu seras pesé, Phares, tu seras divisé. Mon âme va être comptée, mon âme va être pesée, mon âme va être divisée si je ne réponds pas à la grâce du bon Dieu. Et ça va être terrible pour le jugement particulier et pour le jugement général encore plus, de se rendre compte que le bon Dieu attendait plus de mon âme. Il va regarder dans mon âme, il va voir mon âme toute petite, toute rabougrie, toute ratatinée en quelque sorte. Il va me dire, mais j'avais prévu que votre âme devienne grande, bien plus grande que ça. Vous n'avez pratiquement rien donné. Ah, mais j'ai fait quelques bons petits trucs. Oui, mais c'est pas assez, j'avais donné beaucoup plus. Et j'attendais de vous que vous fassiez beaucoup plus et que vous donniez beaucoup plus. Qu'est-ce que je vais répondre? Donc, encore une fois, posez-nous la question, quel genre de terre ai-je dans le champ de mon âme? Est-ce qu'une terre qui doit rendre rendu 100 pour 1, du 60 pour 1, du 30 pour 1? Alors, les pères expliquent que celui qui prêche la foi en la Sainte Trinité rend du 30 pour 1. 60 pour 1, c'est celui qui recommande la perfection dans les bonnes œuvres, car c'est en 6 jours que l'œuvre de la création fut achevée. Et 100 pour 1, c'est celui qui promet la vie éternelle, car le nombre 100 passe de la gauche à la droite. Or, par la gauche, j'entends la vie présente, par la droite, la vie future. Donc, le 100 pour 1 représente celui qui abandonne complètement à sa gauche la vie présente pour aller vers la droite, c'est-à-dire vers la vie future du ciel. Dans un autre sens, là, on voit très bien que les pères ne disent pas exactement, n'interprètent pas exactement de la même façon. Dans un autre sens, la parole de Dieu rend 30 pour 1 lorsqu'elle fait germer les bonnes pensées, 60 pour 1 lorsqu'elle produit les bonnes œuvres, et 100 lorsqu'elle fait arriver jusqu'au fruit des bonnes œuvres. Voilà ce que le bon Dieu attend de moi. Donc c'est vraiment la prière du catholique, à genoux devant le crucifix, devant le Saint-Sacrement, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Donnez-moi la grâce, acceptez votre volonté, même si elle ne correspond pas à la mienne, même si je ne l'aime pas, votre volonté, je ne la comprends pas du tout. Ce serait facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ uniquement lorsqu'on comprend qu'on aime sa volonté. On n'a aucun mérite à le faire. Le bon Dieu, parfois, nous demande des choses qu'on ne comprend pas, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. D'autres interprétations, il y en a plusieurs, j'en mets ici plusieurs. On pourrait en mettre plus, mais j'ai pris les principales. L'ombre 100, c'est le fruit que produisent les martyrs. Donc la vertu de force dans toute son extension. C'est le fruit que produisent les martyrs, ou par la sainteté de leur vie, ou par le mépris qu'ils font de la mort. Le chiffre 60, c'est le fruit que rendent les vierges, qui goûtant les douceurs du repos intérieur, n'ont plus à soutenir les combats de la chair. En effet, on donne la retraite après l'âge de 60 ans aux soldats et aux fonctionnaires publics. L'ombre 30, celui des époux, car c'est l'âge de ceux qui sont appelés à combattre, et ils ont en effet de plus rudes assauts à soutenir pour ne pas être vaincus par leur passion. Donc essayons de voir dans quelle catégorie est-ce que le bon Dieu attend que je sois. Encore une fois, si le bon Dieu attend de moi de rendre au centuple, eh bien, c'est ce que je vais devoir faire. Et si je ne rends que 60 fois ce qui m'a été donné, eh bien, le bon Dieu va me dire, c'est pas assez. Vous êtes trouvé trop léger, vous avez été compté, vous avez été divisé, vous avez été divisé, vous avez tout perdu. Et Balthazar, celui qui avait eu cette vision bizarre, eh bien, va s'entendre dire par Daniel qu'il va tout perdre. Et le soir même, ça n'a pas attendu, hein, le soir même, son armée était défaite par l'armée surprise, l'attaque surprise des Mèdes, et le roi des Mèdes a pris le pouvoir. Ces grandes civilisations de la Mésopotamie, et du bassin de ce qui tigre de l'Euphrate, le bassin aussi de la Méditerranée, ces grandes civilisations avant notre Seigneur Jésus-Christ, pouvaient arriver très rapidement, mais aussi pouvaient disparaître très rapidement, aussi vite qu'elles sont venues. Alors, ici, les pères donnent un conseil. Ils nous expliquent bien qu'il faut lutter contre l'amour des biens temporels pour lui disputer la victoire. Donc, plus mon âme est surchargée, recouverte de biens temporels, plus il est difficile pour elle de pratiquer l'amour des biens spirituels. Les biens temporels ont écrasé l'âme. C'est comme quelqu'un qui porte un sac de cailloux de 60 kilos. Comment voulez-vous qu'il aille loin avec ça? Donc il faut lutter contre l'amour des biens temporels pour lui disputer la victoire, ou bien il faut le tenir dompté et soumis pour réprimer avec facilité ses moindres mouvements lorsqu'il veut se soulever. Enfin, il faut l'éteindre entièrement de manière à ce qu'il ne puisse plus exciter la moindre émotion dans notre âme. Voilà pourquoi nous voyons les uns affronter la mort avec courage pour la défense de la vérité, les autres sans s'émouvoir, d'autres enfin avec joie. Et la place pour tout le monde dans le royaume des cieux. À condition que j'ai compris qu'il faut absolument que je reste en état de grâce. Donc la vie d'ici-bas, c'est le combat terrible pour réprimer les mouvements des trois concupiscences des yeux, concupiscence de la chair, orgueil de la vie. Alors, si je regarde mon âme, l'état de cette âme devant Dieu, je peux me rendre compte qu'il y a encore des efforts à faire sur tel ou tel point. Pour certains, ils ont un gros effort à faire sur la concupiscence des yeux. D'autres n'ont aucun problème avec la concupiscence des yeux, mais pour eux, ce sera la concupiscence de la chair. Et d'autres n'ont pas de problème avec les yeux, pas de problème avec la chair, mais plein de problèmes avec l'orgueil. N'oublions pas aussi que la concupiscence de l'orgueil est bien plus grave, bien plus lourde, bien plus apportée, bien plus pénible, parce qu'il faut constamment lutter contre, comme les autres, mais de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus violente. La concupiscence de l'orgueil est de loin la plus difficile à éliminer complètement. Et l'orgueil s'élimine, par l'obéissance. La concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté, la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté, et la concupiscence de l'orgueil par l'obéissance. C'est pour ça que l'obéissance est tellement importante. Apprenez à vos enfants à obéir immédiatement, sans râler, sans se plaindre. D'autres commentaires, j'ai pris ce nombre de commentaires, surtout sur ces trois chiffres, 30, 60 et 100%. Ces trois degrés de vertu correspondent aux fruits que peuvent donner les trois espèces de terre. L'une 30, l'autre 60, l'autre 100 pour 1. Et les faux moments de la mort font partie de ces trois espèces de terre si l'on veut sortir de cette vie dans les conditions qui assurent la récompense. La terre qui rend 100 pour 1 signifie la vierge. Celle qui rend 60, les veuves. Celle qui rend 30, ceux qui mènent une vie chaste dans l'état de mariage. Donc le nombre 30, ça c'est Saint-Augustin je pense, est une figure du mariage, parce que ce nombre qui s'exprime par le rapprochement des doigts, qui s'unissent par un doux embrassement, représente l'union de la femme et de l'homme. Le nombre 60 représente les veuves, qui vivent dans les larmes et la tribulation. Et la récompense est d'autant plus grande qu'il leur est plus difficile de résister aux séductions de la volonté dont elles ont déjà fait preuve. Le nombre 100, par laquelle la main droite remplace la main gauche et qui s'exprime par le cercle que forment les mêmes doigts de cette main, représente la couronne de la virginité. Oui. Donc on voit bien que dans l'état d'esprit, dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont dans l'état de mariage sont en dessous de ceux qui sont dans l'état de veuvage, et en haut, vous avez la virginité. La virginité est supérieure au mariage. Bien sûr, on peut se sauver dans le mariage. Mais l'état de virginité est supérieur à l'état de mariage. Et l'état de virginité consacré est certainement le plus haut de tous les états. Parce que dans l'état de virginité consacré, on a déjà fait le sacrifice, non pas simplement de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. Et par la pratique des trois conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, eh bien, on peut faire des miracles avec le travail de la grâce. Ici, j'ai mis d'autres comparaisons, les unes à la suite des autres, il y en a une dizaine, il y en a 13, je crois, c'est ça, pour encore une fois expliquer comment les pères voyaient les choses. Donc, la parole de Dieu qui est proférée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être reçue avec plus ou moins de fruits dans les âmes, représente le semeur qui sème sa semence, et la semence va être reçue dans une terre plus ou moins bien préparée, parfois pas préparée du tout. Donc voilà les comparaisons des pères. Comme la parole sort de la bouche du prédicateur, la semence est répandue par la main du semeur. Comme la parole est perçue et reçue par l'oreille et le cœur de celui qui écoute, la semence est reçue au sein de la terre pour qu'elle puisse produire du fruit. Comme la semence est l'origine de tout le blé, la parole de Dieu est l'origine de toutes les bonnes œuvres. Comme la terre sans semence ne peut produire que des orties et des épines, l'esprit de l'homme sans la parole de Dieu ne produit rien d'autre que des choses vaines et délétères. Donc attention à nettoyer notre âme pour être sûr que les orties, les épines ne soient pas au rendez-vous. Notre Seigneur Jésus-Christ ne donnera pas certaines grâces si la terre qui est supposée recevoir ces grâces n'est pas préparée. Pour qu'une graine puisse fructifier, il faut la semer dans un sol qui ne soit ni dur ni pierreux, ni sec ni épineux, mais dans une terre humide et bonne. De même, la parole de Dieu doit être reçue dans un cœur tendre, pur et incliné à la piété pour porter du fruit spirituel. Recevez avec douceur la parole hantée en vous. Donc la meilleure préparation pour notre terrain qui doit recevoir la grâce du bon Dieu, la meilleure des préparations, c'est évidemment la préparation de l'humilité. Autre comparaison des pères, on parle de l'histoire naturelle, telle qu'elle a été connue de leur temps. Et ce père cite Pline l'Ancien, qui dit que le pois chiche préserve les herbes des chenilles, que si les graines sont placées dans le jus de l'absinthe, elles seront protégées des animaux. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que se croyaient les anciens. De la même manière, pour garder la graine de la parole divine dans nos cœurs, préservée de la morsure de plaisir, il faut qu'elle est macérée dans la sobriété, le jeûne et les autres austérités, afin de préserver l'esprit de corruption des délices charnels. Les délices charnels, la corruption des délices charnels, c'est comme, encore une fois, c'est la comparaison de notre Seigneur, c'est les épines et les ronces. Eh bien, pour arracher ça, c'est pas facile. Vous voulez arracher un énorme buisson d'épines, c'est très difficile d'atteindre directement la racine. Il faut couper toutes les branches les unes après les autres, pouvoir petit à petit s'approcher de la racine et finalement la déraciner. Arracher de terre. Et donc, cette lutte, ce combat spirituel, qui le lutte chacun d'entre nous, ce combat spirituel, dans ce combat spirituel, notre âme sera plus forte s'il a été macéré dans la sobriété et dans les austérités. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit expressément. Si vous ne faites pas pénitence, dit-il, vous périrez tous. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Je refuse de prendre la croix à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas le suivre, c'est impossible. Donc, posons-nous la question, est-ce que mon âme macère dans la sobriété, le jeûne et les austérités? Est-ce que je fais pénitence? Est-ce que je connais mon péché particulier, mon défaut dominant, et est-ce que je fais pénitence justement contre ce défaut particulier, contre ce péché dominant? Ou est-ce qu'au contraire, je ne m'en occupe pas du tout? Autre comparaison des pères, comme la terre doit être labourée et préparée pour que la graine puisse germer, ainsi le cœur de l'homme doit être nettoyé, cultivé par de laborieux actes de pénitence. Les mortifications d'autres vertus pour que la parole puisse produire du fruit. Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Encore une fois, on retrouve la même idée. On n'obtient rien, on ne peut pas faire germer la graine sans mortification, sans nettoyage, laborieux acte de pénitence, toutes les vertus qui sont nécessaires, tout ce qu'on appelle ces vertus passives qui sont tellement méprisées par les modernes. Le pape Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, avait dû condamner justement ceux qui méprisaient sereinement toutes les vertus qu'il appelait passives, basées surtout sur la vertu d'humilité. Les Américains étaient comme ça, ils voulaient toujours des vertus actives. Et c'est la raison pour laquelle le pape a condamné cette nouvelle hérésie sous le nom d'américanisme, c'est-à-dire l'amour désordonné des vertus actives et surtout le mépris des vertus passives. Alors qu'en fait, l'Église demande d'utiliser davantage les vertus passives que les vertus actives. Pour que la graine puisse germer, il faut de la pluie et du soleil. Ainsi, pour que la parole de Dieu puisse prendre racine dans l'âme, elle doit être arrosée par la grâce et réchauffée par l'amour céleste. Car comme la terre fait éclore son germe est comme un jardin fait pousser sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Ceci est fait par la parole de l'Évangile répandue partout par le Christ et ses apôtres. Donc notre Seigneur Jésus-Christ demande à ses apôtres de partir, aller baptiser, prêcher. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Comme la semence dans la terre doit pourrir, éclater, mourir afin de pouvoir donner du fruit, ainsi avant que la parole de Dieu puisse fructifier dans le cœur, elle doit être écrasée et mourir par la méditation. Il faut également meurtrir et mortifier le cœur lui-même, comme l'a dit le Christ. Si le grain du froment qui tombe à terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette mort spirituelle, si vous voulez, de la graine, représente justement la fructification de la graine dans un cœur qui est écrasé par la vertu de pénitence. La graine doit d'abord plonger sa racine dans la terre avant que de pousser des branches, puis des bourgeons et des fleurs afin en voir sortir du fruit. Ainsi, dit Saint-Père, la parole de Dieu doit d'abord être enracinée dans l'âme avant de produire des germes de bonnes pensées et des fleurs de saint désir avant que de produire le fruit des bonnes œuvres. Les fruits ne vont pas arriver tout de suite. Les gens sont comme ça, ils se convertissent, ils veulent des fruits tout de suite. Attendez. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Il faut du temps. Il faut du temps au début des conversions, le bon Dieu donne du sucre, mais ça ne dure pas tout le temps. Au bout d'un certain temps, le sucre va disparaître, le bon Dieu va donner du poivre ou du sel. Et ça veut dire qu'il va supprimer certaines réactions sensibles de notre âme. N'oublions pas que plus on monte vers le bon Dieu, plus on doit se couper des choses matérielles. C'est comme ça qu'on passe de la voie purgative, la voie de purification, la voie illuminative qui nous permet de recevoir les lumières du Saint-Esprit avant de passer à la voie unitive pour s'unir à Dieu par le maillage spirituel. Et plus nous sommes attachés aux choses de ce monde, plus les voluptés des trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil ont emprise sur mon âme, moins mon âme peut donner à Dieu. Tout le pouvoir de l'arbre, on est à la page 22 sur Polycopier, tout le pouvoir de l'arbre ou de la plante réside dans la graine, car c'est toutes les parties de la plante en sortent comme d'une façon analogue les membres des hommes et des animaux. Aristote pensait que pour cette raison que les graines avaient une âme. Quand la graine est mise en terre, elle va produire des germes vivants. Ainsi, toute la force de vertu de perfection qui font d'un homme qu'un homme devienne spirituel, saint et parfait, est contenue dans la parole de Dieu comme si elle était dans la grâce. Comme si elle était dans la graine, pardon. Là, je reprends cette phrase. Toute la force de vertu et de perfection qui font qu'un homme devienne spirituel, saint et parfait, et continue dans la parole de Dieu, comme si elle en était la graine. Cette germination dans l'esprit va produire toutes les actions différentes. Si le grain ne meurt, eh bien, rien ne sera donné. C'est intéressant de voir que Aristote pensait que les graines avaient une âme. Et philosophiquement, c'est vrai. Mais évidemment, ce n'est pas l'âme de l'homme. L'âme, c'est le principe de vie, si vous voulez. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de l'atteindre, dit Saint Pédis. Mais l'âme, il y a trois degrés dans une âme. Une graine a une âme dans le sens qu'elle a vie. Toute chose qui est vivante a une âme. Mais ce n'est pas la même âme. Une graine, reprends l'exemple d'Aristote, une graine est vivante, vous la plantez dans la terre, dans les bonnes conditions, vous l'arrosez, elle va s'ouvrir, elle va donner une plantule qui va donner des fleurs et des fruits. Donc elle est vivante. Donc l'âme d'une graine, c'est ce qu'on appelle l'âme végétative. L'âme végétative. C'est la seule fonction qu'elle a. Végétative, ça veut dire qu'elle va croître. Mais elle ne souffre pas. Vous coupez une feuille d'arbre, l'arbre ne va pas souffrir. Vous coupez une branche d'un arbre, l'arbre ne souffre pas. Vous donnez un coup de pied à l'arbre, l'arbre ne souffre pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une âme sensitive. Prenez au contraire un chat ou un chien. Un chat ou un chien sont des êtres vivants, c'est des créatures du bon Dieu, vivantes. Donc puisque le chat ou le chien vivent, eh bien le chat, le chien, ils ont une âme. Mais ils ont une âme qui est plus qu'une simple âme végétative. C'est pour ça qu'ils peuvent sentir. Moi, j'ai un chat dans la maison, de temps en temps, je marche sur sa queue sans faire exprès, parce qu'il se met au milieu de la route. Bon, ben, je suis sûr qu'il me le fait savoir. Il se met à couiner, à miauler toutes ses forces, pour bien me faire comprendre qu'il faut que je retire mon pied de sa queue. Hein? Sa queue pour lui, pas pour moi. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il a la sensibilité. Donc, il n'a pas qu'une seule âme, une âme qui est simplement végétative, il a une âme qui est aussi végétative, qui est une âme... Une âme qui est aussi une âme sensitive. Donc toute âme sensitive est végétative. L'inverse n'est pas vrai. Une âme végétative peut ne pas être sensitive, c'est l'âme des plantes. L'âme d'un animal, d'un simple animal sans raison, est une âme qui est végétative. Donc, est-ce qu'elle croit, le corps du chat va grandir, depuis le petit chaton qui va devenir un gros matou. Et ce corps ne se contente pas de croître, il va aussi avoir une sensation, des sens en éveil. Enfin, troisième degré, l'âme qui est à la fois végétative, à la fois sensitive, mais aussi intellectuelle, raisonnable. L'homme est un animal raisonnable. Donc il a la vie, donc il a l'âme puisqu'il a la vie, qui est à la fois végétative, parce qu'il va croître, le corps de l'homme va croître, depuis le corps d'un bébé, d'un nourrisson, il a commencé à croître dans le ventre de sa mère, puis ensuite grandir, jusqu'à l'âge adulte, et la décrépitude, pour les vieux comme moi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'essence, donc il va entendre, il va voir, il va sentir. Pourtant le pince, il sent, il réagit. Mais il y a quelque chose d'encore supplémentaire, c'est l'âme intellectuelle, l'âme raisonnable. L'homme est un animal raisonnable. Donc l'homme est un animal qui a à la fois une vie végétative, une vie sensitive et une vie intellective, intellectuelle, raisonnable. Il est évident que le fait, si vous voulez, que l'âme soit unie à un corps, va ralentir le pouvoir de l'âme. L'âme est en quelque sorte freinée par le corps. C'est pour ça que ceux qui ont une âme uniquement raisonnable, sans avoir d'âme végétative et d'âme sensitive, ont un système intellectuel bien supérieur au nôtre. Il y a des gens qui sont comme ça, ce qu'on appelle les anges. Les anges ont une âme purement intellective, raisonnable. Ils ont l'intelligence prodigieuse, mais ils n'ont pas de sensation, parce qu'ils n'ont pas de corps. N'ayant pas de corps, ils n'ont pas de liaison à un corps, ils n'ont pas d'âme sensitive, ils n'ont pas d'âme végétative, ils n'ont qu'une âme intellectuelle, une âme raisonnable. Ce qu'on appelle des purs esprits, justement. Le pur esprit, c'est l'esprit qui n'est pas freiné, gêné par l'existence d'un corps qui est lié à cette âme. C'est pour ça que les hommes, quand ils comprennent les choses, sont obligés de passer par les sens. C'est les sens qui nous renseignent, qui vont renseigner notre cerveau sur ce qui se passe à l'extérieur. Si j'ai pas de sens, je peux rien savoir. Je peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Il manque beaucoup de choses si on n'a pas de sens. Quand j'étais à New York, j'avais un cuisinier qui avait une grosse maladie. Le pauvre était brave comme tout, mais il avait les nerfs sensitifs de ses membres qui étaient détruits. Donc il pouvait bouger les mains, mais il sentait rien. C'était très dangereux. Parce qu'il allumait le gaz, il laissait sa main sur le gaz par erreur, en faisant autre chose. Il commençait à brûler et il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas sentir et donc retirait par réflexe sa main du feu. Il allait sentir la chair brûler, à ce moment se rendre compte qu'il avait laissé sa main sur le feu. Une fois, il est arrivé avec des pieds dans un état épouvantable. Je dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il me dit, j'avais fait sécher mes chaussures parce qu'elles étaient trempées. J'ai mis du papier journal dans la chaussure. Puis j'avais enlevé le papier journal, mais j'ai pas vu qu'au bout de la chaussure, à l'intérieur, il restait une boulette de papier journal. Et j'ai mis mes chaussures comme ça. Et comme j'ai pas de nerfs sensitifs pour les pieds, ben j'ai pas senti que j'avais une grosse pression sur mes orteils qui pouvaient pas s'étendre normalement. Et donc quand il a enlevé ses chaussures le soir, il s'est aperçu que ses pieds étaient en sang. Parce qu'évidemment, les doigts, les orteils des pieds étaient complètement recroquevillés. C'était une croix terrible qu'il avait. Ça n'empêchait pas d'être un bon cuisinier. Il avait cette croix. Donc attention, encore une fois, à la compréhension de ces choses-là qui sont très importantes. C'est que lorsque Aristote dit que il pensait que les graines avaient une âme, en soi il a raison. Donc pour revenir à ce que je disais, pour terminer mon raisonnement, donc lorsque une âme est libre d'un corps, elle devient une âme, un pur esprit en quelque sorte, c'est le cas des anges. Les anges ont un système de compréhension bien plus supérieur au nôtre. Ils passent pas par les sens pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, puisque c'est les sens qui vont indiquer au cerveau humain ce qui se passe à l'extérieur. Donc, les yeux vont envoyer par le nerf optique des renseignements au cerveau. Le nez va envoyer par le nerf olfactique des renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur. Les oreilles vont envoyer par le nerf auditif les renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur. Et le cerveau va faire une image de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va synthétiser en quelque sorte tous ces singuliers pour avoir ce qu'on appelle une image universelle. Mais ce n'est pas le cas des anges. Les anges sont les purs esprits, donc ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas besoin de voir, ils n'ont pas besoin d'entendre, ils n'ont pas besoin de sentir. Donc ils comprennent par intuition. C'est un système de compréhension largement supérieur au nôtre. Il faut méditer tout ça. Et c'est le système un petit peu de compréhension, d'une certaine façon, que nous aurons au ciel. Parce qu'au ciel, nous ne serons plus limités par le corps. le corps sera glorieux. Toujours page 22. Des graines différentes produisent des fruits différents. La graine de poirier produit des poires et celle du blé des épis de blé. De même, des phrases différentes de l'évangile produisent des affections différentes dans l'âme. Les préceptes d'humilité vont produire l'humilité et ceux de repentance, la repentance. En fonction de l'acceptation de la prédication de la parole du bon Dieu, eh bien, notre âme va réagir de façon différente. De même qu'il faut un père ou une mère pour chaque enfant, il faut la terre et la graine pour la production du fruit. Ainsi, pour obtenir de bonnes œuvres, il faut la mettre ensemble. Il faut la mettre ensemble, la parole de Dieu, avec ce qui est interne. Une faute, il faut mettre ensemble la parole de Dieu avec ce qui est interne, c'est-à-dire le libre arbitre de l'homme qui doit coopérer avec la parole de Dieu. Mais il faut que la volonté fasse dériver tous ses pouvoirs de production des œuvres spirituelles de la parole et de la grâce de Dieu pour que ces fruits plaisent à Dieu et méritent la vie éternelle. Il ne s'agit pas simplement qu'il y ait des fruits, il faut que les fruits soient bons. Il ne faut pas faire comme Caïn qui avait offert les fruits pourris de la terre. Il était paysan, agriculteur, et il n'avait pas voulu offrir les meilleurs fruits de sa terre, donc il avait offert des fruits à moitié pourris. Et bien lui, Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, qui était jaloux, c'est l'acceptation par Dieu du sacrifice de son frère Abel, qui lui avait donné à Dieu les meilleurs produits de son troupeau, puisqu'il était éleveur. Autre commentaire des pères. Les richesses sont bien comparées aux épines, car elles distraient, piquent et tourmentent l'esprit, ce qui fait qu'il ne plaît pas beaucoup à un homme riche de penser souvent aux choses divines. Même on peut dire que plus on est riche, plus c'est difficile de penser aux choses divines. Quand il y a trop d'argent, ça devient pratiquement impossible. J'ai un ami qui a tiré le diable par la queue pendant longtemps sur le plan financier avec sa famille, et puis son organisation, son travail commence enfin à se développer. Et maintenant, il est en train d'avoir des résultats, un rapport financier intéressant. Et je lui ai dit un peu rire, je lui ai surtout devenez pas trop riche. Il me dit pourquoi. Je lui ai dit devenez pas trop riche parce que si vous devenez trop riche, il va devenir très difficile pour vous de sauver votre âme. Il faut avoir un minimum. Vous avez mangé le diable par la queue pendant longtemps. Maintenant, vous avez besoin évidemment d'avoir plus de rentrées financières pour aider votre famille. Vous avez besoin d'argent comme tout le monde. Mais attention à ne pas devenir esclave de l'argent, attention à ce qu'il n'ait pas trop de richesse, il a compris. Et je sais qu'il fera attention. Et donc, il s'agit donc que nos œuvres spirituelles, sanctifiées par la grâce de Dieu, plaisent à Dieu et méritent la vie éternelle. Est-ce que mes œuvres plaisent à Dieu? C'était dans l'épître du dernier dimanche après la Pentecôte. Donc, les richesses qui sont comparées aux épines, distrait, pique, tourmente l'esprit. Pourquoi? C'est le monde qui empêche l'esprit de se développer. Pourtant, les épines blessent alors que les richesses donnent du plaisir. Mais les richesses et les épines lacèrent l'esprit, infligent une blessure sanglante en poussant au péché. D'accord? Donc, les plaisirs du monde sont des faux plaisirs. Parce que ce sont les plaisirs, justement, qui vont, disent les pères, lacérer l'esprit, infliger une blessure. En dernière comparaison des pères, ça c'est intéressant, par un autre père qui s'appelle Théophylacte. Et j'ai trouvé ça, c'est lui. Théophylacte dit, il assigne le 30% au commençant, le 60% au progressant, au 100% le parfait. Pourquoi? Parce qu'en plus on se rapproche du bon Dieu, plus notre âme se dilate et peut recevoir la grâce du bon Dieu. Au début, elle est toute petite, donc elle ne peut pas recevoir grand-chose. Et puis après, elle se dilate sous l'effet de l'amour du bon Dieu. L'âme s'ouvre comme une fleur au soleil et va pouvoir recevoir beaucoup plus. Avançons maintenant dans ce chapitre 13. Donc on n'avance pas très vite aujourd'hui, mais je pense que ces commentaires des pères sur les chiffres que donne notre Seigneur, ceux qui rendent du 30, ceux qui rendent du 60, ceux qui rendent du 100%, les commentaires sont importants. À chapitre 13 de Saint Matthieu, versets 24 à 30, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, produisit son fruit, alors l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du père de famille s'approchant lui dirent, Seigneur, N'avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, cet homme ennemi, c'est l'homme ennemi qui a fait cela. Ses serviteurs lui dirent, voulez-vous que nous allions l'arracher? Il dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai, moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Une parabole d'une incroyable richesse pour notre vie de tous les jours. C'est exactement notre histoire. Nous aussi, on a un champ. C'est notre âme. Malheureusement, on dort souvent. Et quand on dort, on ne saurait pas ce qui se passe. Et évidemment, l'ennemi de notre âme, le démon, les concupiscences, encore une fois, vont travailler et vont mélanger au bon grain, le blé, des mauvaises herbes. On appelle ça l'ivraie. Bon, dans certains textes, on traduit ça par la zizanie, l'esprit de division. Eh bien, ceci nous aide à comprendre que le bon Dieu nous demande de vivre dans un monde entouré de gens qui ne sont pas comme nous. Ce serait très facile si on vivait uniquement au milieu des saints. Imaginez si tous vos amis étaient autour de vous, tous les gens qui étaient autour de vous, c'était comme la Très Sainte Vierge Marie, comme Saint Joseph, comme Saint François de Sales, comme Saint Thomas d'Aquin, comme Saint Ignace de Loyola, comme le grand Saint François, comme Saint Dominique. Ben, la vie serait un paradis sur la terre. C'est pas comme ça. Il n'y a pas que des Abel, il y a aussi des Cain. Il n'y a pas que des apôtres qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi, malheureusement, des Judas. Et le bon Dieu veut que nous sanctifions, mélangés justement à l'ivraie, mélangés aux choses du monde, et nous donne des grâces pour nous protéger de l'ivraie. Alors voilà, voyons les commentaires des pères en bas de la page 22. Si le démon ne voit rien qu'il puisse imiter, s'il ne voit personne qu'il puisse faire tomber dans le piège, il s'abstient de tenter. Mais comme il voit ici que l'on rend 100 pour 1, l'autre 60, l'autre tente, que l'un rend 100 pour 1, l'autre 60, l'autre tente, et qu'il n'a pas pu enlever ou étouffer ce qui a pris racine, il a recours à d'autres artifices, il mêle les erreurs à la vérité. Il leur en donne autant qu'il peut la couleur et la ressemblance. Vous trompez plus facilement ceux sur qui la séduction exerce depuis longtemps son empire. Très intéressant de voir que pour les pères, cet ivraie mélangé à la vérité, c'est le symbole du libéralisme, c'est le symbole des hérésies qui se mêlent à la vérité, c'est-à-dire qui gardent une partie de la vérité. Les hérétiques, en général, ne nient pas tous les dogmes de foi. Ils en nient certains. Il suffit qu'ils en nient un seul pour qu'ils soient hérétiques. Alors évidemment, ils vont insister sur les points communs. C'est ce qu'on entend toujours dans le modernisme de l'Église de Vatican II. Ah mais regardez avec les protestants, avec les gens qui sont autour de nous, on a beaucoup de points communs. Voyons ce qui nous unit et ne voyons pas trop les choses qui nous divisent. Mais c'est justement par les choses qui nous divisent que l'hérésie passe. Donc il faut surtout examiner les choses qui nous divisent plutôt que les choses qui nous unissent. Et de vouloir examiner que les choses qui nous unissent et oublier les choses qui nous divisent, c'est de l'hérésie pure et simple, c'est favoriser l'hérésie. C'est ce que fait François à longueur de journée. Il ouvre toutes les portes de l'Église, et évidemment, les hérésiarques peuvent rentrer comme ils veulent et tout détruire de l'intérieur. Et le danger, justement, de l'hérésie, c'est qu'elle a la couleur de la vérité. Comme la graine de la zizanie, la graine de l'ivraie, qui ressemble au blé, à la graine de blé. Pourquoi le démon fait-il cela? Pour tromper plus facilement ceux sur qui la séduction exerce depuis longtemps son empire. Donc il faut savoir distinguer les choses et absolument nous protéger des choses du monde. Si vous voulez aimer toutes les choses de ce monde, n'espérez pas aller au ciel, c'est impossible. Monsieur l'abbé, il y a un temps pour aimer les choses du monde et un temps pour aimer les choses du ciel. Ben oui, d'accord, vous avez le droit d'utiliser un peu les choses du monde. Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre dans une caverne ou au sommet d'un arbre, c'est évident. Mais le bon Dieu vous demande de filtrer en quelque sorte les choses du monde par l'esprit de prière, par l'esprit de sacrifice. Voilà ce que disent les pères en bas de la page 22. C'est pour cela que notre Seigneur ne dit pas qu'il y sème une autre semence, mais de l'ivraie, parce qu'elle a quelque ressemblance par la forme avec le grain de froment. Le démon fait éclater encore sa malignité en ne répandant l'ivraie que lorsque les semailles étant terminées, est déterminé afin de nuire davantage aux travaux du laboureur. Page 23. qu'il avance dans ces explications qui sont très belles des pères sur cette parabole de l'ivraie, du bon grain de l'ivraie. Lorsque les hommes dormaient, c'est en effet, disent les pères, lorsque les premiers pasteurs de l'église se laissèrent aller à la négligence, ou bien lorsque les apôtres se sont endormis au sommeil du sommeil de la mort, que le démon est venu et qu'il a semé par-dessus la bonne semence ceux que le Seigneur appelle les mauvais enfants. Rappelez-vous à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres sont avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris avec lui à l'intérieur du jardin de Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Il s'éloigne d'un jet de pierre, dit l'Évangile, pour avoir son agonie. Et il dit aux apôtres, veillez, priez. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation, parce que l'esprit est prompt et la chair est faible. Et que font les apôtres? Au lieu de veiller, de prier, ils dorment. Et c'est parce qu'ils ont dormi qu'ils n'ont pas pu résister aux tentations du démon. Et lorsqu'il va falloir faire un choix, ils vont se sauver comme des lapins. Tous s'enfuir, n'oublions pas. Donc, est-ce que je dors au lieu de veiller sur mon champ? Bien sûr, il faut dormir. On a besoin de dormir un minimum. Mais il faut veiller, hein. Il faut veiller sur notre âme. Est-ce que le démon peut venir dans mon âme et mêler, livrer au bon grain, justement, parce que je ne veille pas assez sur mon âme, parce que je dors trop au lieu de surveiller mon âme? On peut demander avec raison, disent les pères, s'il a voulu désigner les hérétiques, ou bien les catholiques dont la vie n'est pas conforme à leur foi. Il nous dit qu'ils ont été semés au milieu du froment. Il semble donc qu'il a voulu désigner ceux qui appartiennent à une même communion. Cependant, comme lui-même nous déclare que ce champ est non seulement l'Église, mais le monde entier, on peut très bien voir dans cette ivraie les hérétiques qui, dans ce monde, se trouvent mêlés aux justes. Donc c'est à la fois les hérétiques, cette ivraie, à la fois les hérétiques et à la fois les mauvais catholiques. N'oublions pas que des deux espèces de gens, les hérétiques et les mauvais catholiques, la pire engeance, les plus dangereux, c'est les mauvais catholiques, parce qu'ils savent exactement où frapper. Donc, dans cette vie, on voit que les hérétiques sont, dans ce monde, mêlés aux justes. Autre explication des pères, page 23, troisième paragraphe. Ceux qui conservent la vraie foi, tout en la déshonorant par leur vie, sont plutôt semblables à la paille qu'à l'ivraie. Parce que la paille a la même origine et la même racine que le froment. Quant aux schismatiques, ils ressemblent bien plus aux pailles brisées ou coupées que l'on sépare de la moisson. Notre Seigneur, dans ce qui suit, nous trace avec soin le portrait des hérétiques. Lorsque l'herbe eut poussé, qu'elle fut montée en épi, alors l'ivraie parut par elle-même. Donc la paille est une partie du blé, attention, une partie du plant de blé. Elle a la même origine, la même racine que le froment. Et donc, cela représente vraiment les mauvais catholiques qui ont la vraie foi, mais qui la déshonorent par leur vie de tous les jours. Donc, lorsqu'on sépare la paille de la moisson, eh bien, c'est l'image du schismatique qui est séparé de l'Église par son excommunion et son excommunication. Les hérétiques dissimulent d'abord leur présence, puis, lorsque leur confiance est accrue, qu'ils sont parvenus à se faire écouter et qu'ils ont fait quelques prosélytes, ils répandent leur venin. Et on voit très bien ça dans François, l'église de Vatican II. Donc on oublie complètement que François, qui se présente comme pape, est extrêmement dangereux justement à cause de ça, parce que par une certaine forme de bonhomie extérieure, il augmente la confiance que les catholiques ont en lui, et une fois qu'il a acquis cette confiance, à ce moment-là, il sort la grosse artillerie pour détruire les hérésies, pour détruire, pardon, les dogmes de foi par ces hérésies. On sent très bien qu'il s'attaque directement à la source même de la foi. Qu'est-ce qui nous permet de garder la foi? D'abord les sacrements. Les sacrements. Le baptême, évidemment. Puis ensuite, la Sainte Eucharistie, la pénitence. Et on voit très bien comment François détruit un après l'autre tous ses sacrements. Je vous l'ai déjà expliqué, dans ce papier, je l'explique à fond. Il détruit le baptême. Il ne détruit pas le baptême en faisant croire que les non-baptisés étaient des enfants de Dieu. Il l'a dit expressément. Il veut détruire le mariage en multipliant en proportion invraisemblable le nombre des divorces catholiques, le nombre des annulations de mariage, soi-disant annulations de mariage. Alors qu'un mariage ratifié et consommé ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. Par la nouvelle messe et la destruction de la liturgie, eh bien, c'est évidemment la Sainte Eucharistie qui saute. Donc il a fait sauter le baptême, il a fait sauter le mariage, il a fait sauter la Sainte Eucharistie. Par l'introduction de la liberté de conscience, il fait sauter aussi la confession. Donc tous les sacrements, ils passent. Tous. En 83, ils ont changé. En 81, ils ont changé. En 83, je n'en ai plus la date exacte, il faut que je vérifie mes dates. Ils ont changé le rituel de la sacrement de confirmation. Quand on analyse tous les sacrements, c'est incroyable. Tous les sacrements vont y passer. Parce qu'il veut, on sent très bien que François veut absolument couper le catholique de la tradition. Parce que la tradition ayant disparu, ou disparaissant, eh bien c'est la foi qui va sauter. C'est ça son but. Détruire les âmes pour les amener en enfer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est pour ça que pour moi, le pire ennemi de l'Église, c'est pas Macron, hein, ou Mélenchon. Le pire ennemi de l'Église, c'est Bergoglio, de loin. Parce qu'il sait exactement où taper. Il sait exactement où frapper. Et c'est pour ça que cette phrase des pères est importante. N'oubliez pas que ces textes ont été écrits il y a 700 ou 800 ans. Les hérétiques dissimulent d'abord leur présence. Mais lorsque leur confiance est accrue et qu'ils sont parvenus à se faire écouter, qu'ils ont fait quelques prosélytes, ils répandent le venin. Alors nous continuerons ces explications la semaine prochaine, donc si Dieu veut. Ne soyez pas surpris si je réponds à quelques questions qui me sont posées parfois. Ne soyez pas surpris aussi si je mets parfois en avance sur le site les conférences. C'est que tout simplement, ben, je les mets quand j'ai du temps. Quand j'ai du temps, ben, si mon cours est prêt, ben, j'enregistre et je passe sur Internet et je mets toujours la date où il devrait être pour que les gens s'y retrouvent. Je vais en terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.